étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre que l'on guise.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture. Sans oublier nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 41e édition de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir l'autrice jurassienne de naissance Anouk Schutterberg, dont le quatrième roman In Extremis est paru le 13 mars 2025 aux éditions Récamier. Anouk, bonsoir.
Bonsoir Michel.
Vous préférez le mot autrice, romancière, auteure ou écrivaine lorsqu'on vous présente?
Je dirais plutôt auteur, R.E.
Bien. Quels étaient vos rapports à la lecture et à l'écriture lorsque vous étiez enfant puis adolescente?
Alors, dès le CP, bon, j'ai appris à lire et à écrire, hein, n'est-ce pas, comme la plupart des enfants qui sont scolarisés. Et très vite, j'ai commencé par les fantômes, bibliothèque bleue, bibliothèque verte, toutes ces énigmes, le club des cinq, voilà, fantômes. J'étais vraiment dans des sphères déjà un petit peu dans du noir, entre guillemets, enfin en tout cas dans des petits frissons. Et puis, voilà, moi, après, j'ai beaucoup lu aussi, j'ai eu des gros coups de cœur littéraires comme Le Lion de Joseph Kessel, et puis après j'ai beaucoup lu du Agatha Christie, etc. Je lis depuis très très longtemps, assez gourmande de livres en tout cas.
Déjà très branché polar.
Eh ben en fait oui, mais j'aimais bien Club des Cinq parce qu'il y avait toujours un mystère et puis ces cinq copains qui essayaient de dénouer une espèce d'énigme, il y avait toujours, ils avaient un chien avec eux, il y avait toujours des choses, j'aimais bien cette ambiance, donc voilà, c'est vrai que ça fait longtemps que je lis entre guillemets du polar, si on peut appeler ça du polar, mais pour les petits quoi, oui. Quand j'étais jeune.
Vous avez toujours été passionné par l'art et plus particulièrement par l'art contemporain. Il a inspiré votre premier roman Jeu de peau. Écrire des romans en 2025, c'est aussi de l'art contemporain.
Écrire un roman en 2025, est-ce que c'est de l'art contemporain? Oui, parce que forcément, on plante un décor qui est ancré dans notre société avec toutes les distorsions et tous les problèmes qu'il peut y avoir, même si je ne fais jamais du roman social ou du thriller social. Mais forcément, on est inspiré par les choses qui nous entourent. Donc oui, on fait quelque part de l'art contemporain puisqu'on est ancré dans l'instant T dans lequel on écrit notre roman. Oui.
On parle plus facilement d'artiste lorsqu'on parle de musique, de sculpture, de peinture, de danse ou de cinéma, moins lorsqu'on parle de littérature. Votre écriture, votre littérature, c'est aussi de l'art?
Oui, c'est vrai, vous avez raison de noter ce différentiel. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'artistes dans tout ce qui est musical et pictural et art contemporain et beaucoup moins sur les créateurs littéraires, j'allais dire. Moi, j'ai toujours pris l'écriture, c'est un peu comme écrire une composition musicale, en fait. Il y a des temps de souplesse, il y a des crescendo, il y a du staccato, comme on dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que ça aille vite dans de l'action. Donc, c'est vraiment pour moi comme faire une composition musicale. Ça s'y rapproche en tout cas dans le rythme de l'écriture, dans la façon de l'écrire, dans la façon de rythmer les mots et de les assembler.
L'écriture, vous en avez fait depuis longtemps votre métier, puisque vous étiez jusqu'à il y a peu conceptrice et rédactrice dans le milieu de la communication d'entreprise. L'envie d'écrire pour vous et non plus pour les autres est arrivée quand?
Alors, l'envie d'écrire, ça s'est passé, bon, après, c'est sur un temps un peu personnel où j'ai eu plus de temps pour moi, plus de temps à dégager pour moi. Jeu de peau, j'avais le scénar en tête depuis très très longtemps, depuis au moins 5 ans avant de vraiment démarrer l'écriture. J'avais déjà écrit des nouvelles qui avaient été publiées sur le web, sur Shortcut notamment. J'écrivais déjà depuis longtemps et je pensais que je n'aurais pas la capacité d'écrire un véritable roman. Pour moi, écrire une nouvelle de 10, 15, 20 pages était facile, mais écrire un roman, le structurer, me semblait extrêmement compliqué. Et puis, à un moment donné, j'ai un ami qui a déjà été publié qui m'a dit « Mais ton idée, elle est géniale, vas-y, lance-toi », et c'est ce que j'ai fait, voilà.
Écrire un polar était une évidence pour vous?
En fait, oui, parce que pour le jeu de peau, le scénario que j'avais en tête, je l'avais depuis très très longtemps, donc j'avais j'avais déjà un peu mûri mes personnages. Après, comme je vous dis, je ne savais pas trop comment j'allais structurer les choses. Et en fait, c'est venu assez naturellement. Comme si je voyais en fait une série ou un film devant mes yeux. Donc, je voulais voir les scènes qui se succédaient les unes après les autres.
Vous avez une écriture très cinématographique. Le 7e art et les séries vous influencent plus que vos lectures.
Oui, voilà, c'est David Fincher, évidemment, comme réalisateur qui m'a énormément marqué, mais aussi des auteurs comme Jean-Christophe Granger, qui, dans la mise en scène de ses découvertes de corps et puis sur le déroulé de ses intrigues, m'a souvent subjuguée. Mais c'est vrai que sur certaines scènes, je suis assez influencée par des images qui me viennent comme ça, un peu en bloc. Voilà, c'est ma manière d'écrire, c'est souvent assez saccadé, c'est un peu une écriture aussi scalpel parfois, quand je veux marquer du dynamisme, quand je veux que ce soit un peu corsé. Et oui, je suis beaucoup influencée effectivement par le cinéma, et un peu moins par les séries, mais plus par le cinéma, oui.
Votre premier roman, Jeu de peau, est paru en 2021. Il a été long à écrire.
Ah, pas du tout. C'est celui qui m'a pris le moins de temps. J'ai mis tellement de temps dans la gestation de ce scénario, de cette histoire, que quand j'ai eu cette fenêtre de tir, j'ai écrit Jeu de peau en 5-6 mois, même pas.
Alors, Jeu de peau a été édité chez Plon. Pour un premier roman, c'est plutôt flatteur. Ça doit sacrément mettre en confiance.
Oui, disons que pour moi, j'ai été éditée en 4 jours. Alors, je peux pas dire que ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai été très surprise au départ parce qu'en fait, quelle que soit l'œuvre que l'on réalise, que ce soit une œuvre littéraire ou que ce soit de l'art plastique ou peu importe, on n'est jamais que tout seul avec soi-même. Et d'avoir une reconnaissance d'un éditeur comme Plon, ça a été pour moi avant tout une surprise. Et bon, après, je me suis dit, bon, voilà, ben, c'est comme ça et c'est hyper bien. Mais j'avoue que j'étais quand même extrêmement... On n'est jamais, quand on envoie un manuscrit à un éditeur, on n'est jamais sûr de soi, on ne sait jamais si on est... Mais même après avoir écrit 3, 4, 5, 6 livres, on n'est jamais sûr de soi. Et pour en parler avec d'autres auteurs R, S et RES, autrices, tout le monde est pareil. C'est-à-dire qu'on doute tous à un moment donné, même si on est certain de notre histoire, on doute tous à un moment donné de savoir comment ça va être perçu par le public aussi. Donc ça, et puis c'est une belle remise en question, parce qu'il faut se remettre en question régulièrement quand on crée.
Votre premier roman coïncide avec l'arrivée de vos deux personnages principaux, le commissaire Stéphane Jourdain et l'inspectrice Lucie Bunevial.
Bunevial, oui.
Au départ, vous aviez prévu qu'ils reviennent ?
Pas du tout. Enfin, oui et non, parce que la fin de Jeu de peau laisse, même la dernière ligne laisse supposer qu'il va y avoir... un deuxième chapitre à leur histoire, mais en fait ces deux personnages se sont imposés à moi assez vite, et c'était pas du tout stratégique, mais j'ai eu envie de les reprendre pour un deuxième roman. Je me suis dit que j'en avais pas fini avec eux et qu'ils allaient encore me délivrer d'autres surprises, mais c'était pas anticipé au moment où j'ai démarré l'écriture de Jeu de peau.
Ce premier roman, Jeu de peau, se passe dans le milieu de l'art contemporain, un monde que vous connaissiez bien et avez fréquenté. C'était forcément une solution de facilité ?
Non, pas du tout, parce que j'avais quitté le milieu de l'art contemporain depuis bien longtemps et les galeries d'art, donc c'était pas du tout ça. Non, je voulais mettre en scène un peintre, et pas du tout en solution de facilité, parce que j'ai fait énormément de recherches, parce qu'en fait, le milieu de l'art contemporain ne fait que soutenir en fait l'intrigue, mais c'est surtout l'histoire du tatouage et notamment l'Irezumi qui fait en fait toute l'intrigue du roman. Donc en fait, moi j'ai passé énormément de temps et de recherche au-delà du milieu de l'art contemporain, comme vous dites, pour asseoir mon propos sur le tatouage Irezumi, qui a une particularité que peu de personnes dans le monde connaissent et qui fait évidemment tout le nœud de mon intrigue. Donc c'était vraiment c'est comme un décor que j'aurais posé, qui m'était plus familier, j'allais dire, mais sur lequel ne repose pas toute mon énigme en fait.
Alors vous avez rapidement enchaîné avec deux autres romans, Bestial en 2022 et La Nuit des Fous en 2023. Entre 2022 et 2024, les récompenses ne se sont pas faites attendre et vous vous êtes fait un nom dans le monde du polar. C'est allé très vite. Comment vit-on ce succès littéraire ?
Avec beaucoup de travail déjà, donc c'est une présence dans tous les salons et c'est appréhender surtout un monde que je ne connaissais mais absolument pas, parce que le monde de l'édition m'était totalement étranger. C'est donner évidemment beaucoup de sa personne sur, encore une fois, présence en librairie, sur les réseaux sociaux, être comme là, comme nous sommes maintenant en interview, c'est-à-dire se rendre disponible pour les médias. Et en fait, les choses se construisent au fur et à mesure. C'est vrai que pour Jeu de peau, donc j'ai eu le prix d'Horace Suarez, qui était mon premier prix national, hein, on va dire, hein, que j'ai eu en 2022. Pour Jeu de peau et le prix du Deschaux, donc le prix de la Vouivre que j'ai eu, bon, c'était un prix de salon. C'est vrai que Bestial, un des grands prix, c'était aussi le prix Découverte à l'Iris Noir à Bruxelles. Donc ça, c'était une. En fait, à chaque fois, on monte un peu une marche et toujours en avançant et en essayant de se dire bon, je vais continuer, je vais essayer de faire plaisir à mes lecteurs, toujours plus nombreux. Voilà, c'est une ascension qui se fait en douceur et qui se fait un peu naturellement quand vous écrivez des bons bouquins, mais je suis pas la seule, hein.
Dans vos romans, vous partez souvent d'une histoire qui vous est arrivée ou qui vous touche personnellement et vous en faites un roman noir de surcroît. Comment faites-vous pour toujours en noircir le trait?
Alors, Jeu de peau, j'ai fait appel à mes voyages au Japon hein, pour le ressenti, parce que je voulais justement transmettre l'atmosphère japonaise et puis toute cette déférence que l'on a avec les ancêtres, les vieux, la façon dont on salue, etc. Ça, c'était intéressant pour moi aussi. Bestial, effectivement, ça vient du fait que j'ai perdu ma fille. On était à Londres avec des amis anglais et pendant voilà, 10 minutes, on était tous en groupe et ma petite dernière a disparu de ma vue. On l'a cherchée. Tout le monde cherchait, tout le monde pleurait, tous les enfants étaient en panique. Et on a cherché ma fille pendant 10 minutes. Heureusement, tout s'est bien déroulé. Mais j'ai ressenti cette espèce de terreur qui m'a habitée. Et je me suis dit que ce sentiment qui m'a vraiment coupé les genoux, j'allais en faire quelque chose. Et donc c'est revenu bon, après Jeu de peau en disant, voilà, je voulais parler d'une maman, enfin de parents qui avaient perdu leurs enfants et qui ne savaient pas ce qu'elles étaient devenues. Dans toute mon empathie, j'ai pu ressortir justement cette espèce de terreur que j'avais ressentie pour me rapprocher au plus juste de ce sentiment-là, de ces victimes. Et pour La Nuit des Fous, c'est probablement effectivement mon thriller, mon roman le plus personnel, puisque c'est venu d'un dossier qu'il m'a fallu absorber, digérer. On était très dans le pathos. Et que j'ai dû, voilà, retransformer, resculpter pour en faire un thriller. Mais effectivement, même pour In Extremis, mon dernier roman, voilà, j'ai passé du temps à Valfréjus et une grosse partie du polar se passe à Valfréjus. J'ai vécu là-bas. À chaque fois, je retranscris des émotions que j'ai vécues. Voilà. En tout cas, c'est à chaque fois quelque chose qui donne un déclencheur, en tout cas, sur une idée que l'on va développer.
Depuis 2024, vous avez décidé de vous consacrer exclusivement à l'écriture de romans. Ça a été facile de choisir?
Ça a été facile et en même temps un peu compliqué, mais j'allais dire nécessaire, puisque écrire un livre prend un an, grosso modo, entre le moment où germe l'idée, et on a besoin dans un processus créatif d'être vraiment libéré de toute contrainte. Et je ne pouvais plus gérer, en fait, à la fois mon agence et effectivement et l'écriture, donc c'était too much pour moi. Donc ça a été en fait une libération. Et en même temps, ben, je me jette un peu dans le vide hein, parce que voilà, je me consacre que à l'écriture, donc il faut que voilà, il faut que mes livres plaisent, il faut que je développe le nombre de mes lecteurs, donc voilà. Mais c'était nécessaire. Je pouvais difficilement faire les deux en même temps.
Vous dites il faut que.
Oui.
C'est une obligation.
Il y a deux choses. C'est où vous avez le temps de faire les deux et d'avoir cette capacité de vous mettre en retrait et puis écrire la nuit, je dis n'importe quoi, mais bon, pour de nombreux auteurs, c'est ça, et puis le lendemain, à 8 h, être au bureau. Je l'ai fait, mais je trouve que ça vient contrecarrer la liberté créative et ça vient polluer un peu, je trouve, la créativité. Et puis, tous les week-ends, quand on est en salon, c'est presque mener de front deux jobs à plein temps, en fait. Et je voulais vraiment, en arrêtant mon activité professionnelle, je voulais vraiment faire la rupture et tenter l'aventure pour vraiment me consacrer qu'à la création littéraire.
Vous avez changé de maison d'édition en 2023 et vous êtes désormais chez Récamier dans la collection Noir. Vous êtes
Oui.
plus identifiable que chez Plon?
Alors, en fait, moi, j'ai changé de maison d'édition, mais j'ai gardé la même éditrice, hein, puisque, en fait, Céline Toulouse a monté les éditions Récamier Après être passée chez Plon où les choses étaient politiquement assez compliquées à gérer. Voilà, moi j'ai suivi mon éditrice. Chez Récamier, on est dans une petite maison d'édition au sein d'un très grand groupe. Et en fait, c'est du point de croix. Moi, j'adore le lien qui est personnalisé, où on se sent en groupe, en famille. Donc, je trouve que c'est très rassurant. Et au niveau de la visibilité, oui, on s'y retrouve parce que bon, Bestiale est sorti chez Plon, c'était à un moment donné très très compliqué. Et finalement, La Nuit des Fous, qui est sorti chez Récamier, était beaucoup plus, a eu beaucoup plus de portée parce qu'on avait plus de coudées franches. Ouais.
On vous retrouve le 13 mars 2025, toujours aux éditions Récamier, pour la sortie de votre quatrième roman In Extremis. Pouvez-vous, sans trop dévoiler l'histoire, nous en raconter brièvement l'intrigue?
Alors, l'intrigue, on est en Savoie et je mets tout de suite le lecteur, je le mets tout de suite en confrontation avec les confidences d'un tueur en série qui n'est pas dénué d'un certain esthétisme et d'une certaine poésie lorsqu'il s'exprime. Et le roman débute sur une scène où en fait un corps dévale la Lesse, qui est une grosse rivière, un gros torrent qui traverse Chambéry. Et en fait, l'enquête démarre de ça. Alors, on est dans le milieu du sport extrême. Je mets en scène aussi une fratrie qui est spécialisée dans les sports extrêmes, qui adore ça. Et notamment Marie, qui est une skieuse qui a ramené la médaille d'or à Chambéry au dernier JO en Corée du Sud et qui va se confronter à un peu plus dur. Elle veut se confronter à ben, justement in extremis, l'extrême du sport, donc le speed riding notamment. On suit à la fois cette enquête où sont découvertes des têtes de femmes qui sont parfaitement maquillées, qui sont coiffées et qui sont ornées d'une couronne d'Edelweiss. L'Edelweiss, c'est la fleur de Savoie, enfin montagnarde. Et en même temps, on suit en parallèle cette fratrie. Et à un moment donné, Marie, cette fameuse championne du monde de géant, disparaît. Et là, c'est Axelle, sa sœur, qui est journaliste aux faits divers à Grenoble, au Dauphiné libéré. Mais j'ai pas mis ce nom-là. Mais enfin bon, j'ai changé un petit peu le nom du journal. Elle reprend l'enquête. Et tous les indices l'amènent à Valfréjus. Valfréjus, c'est une petite station qui est vraiment au bout de la route, qu'on surnomme le nid d'aigle. Hein. Bon, voilà, ça c'est vraiment un clin d'œil, qui est au-dessus de Modane et qui est spécialisée, enfin qui est réputée pour les sports extrêmes, notamment le speed riding. Et donc Axel poursuit sa quête, donc son enquête, et va suivre les indices qui l'amènent à Valfréjus. Et dans cette ambiance très festive de gens qui viennent faire des stages de speed riding notamment, où tout le monde se tape dans le dos, où tout le monde boit des coups ensemble, etc. Et derrière les sourires, évidemment, ben, le tueur se cache, mais qui est-il? Et en fait, jusqu'à la fin du roman, vous ne pourrez pas savoir parce que je brouille les pistes et j'adore ça, et mes lecteurs aussi. Donc en fait, voilà, le tueur se cache derrière un sourire. C'est un psychopathe qui se fond dans la foule de manière parfaite. Toute l'enquête, en fait, est entrecoupée avec ses confidences, comment il chasse, comment lui-même est dans l'extrême, puisque lui aussi se confronte, il pourrait très bien se faire avoir parce que, en fait, il n'aime que les défis, les gros enjeux. Et donc, il va s'intéresser à des sportifs de haut niveau. C'est ce qui l'intéresse puisque tout pourrait basculer. C'est des sportifs qui sont campés, qui sont musclés, qui ont l'habitude de se faire du mal et psychologiquement et sportivement parlant. C'est-à-dire elles peuvent aller dans des extrêmes, que ce soit climatique, etc., ou psychologique. Donc, en fait, il y a un parallèle que j'ai essayé de faire, justement, qui a été bien senti par mes lecteurs entre cette quête d'adrénaline dans les sports extrêmes et finalement cette quête d'adrénaline de ce tueur en série qui lui aussi recherche finalement la même extrémité, la même adrénaline.
Le commissaire Stéphane Jourdain et l'inspectrice Lucie Bunvial ne sont pas de la partie et ils ne supportent pas le climat de la montagne et du froid.
Alors, oui, c'est vrai que In Extremis, en fait, devait être une nouvelle. Donc, j'avais fait une nouvelle que j'avais proposée à Quai du Polar il y a 2 ans, qui n'a pas été retenue, peu importe. Mais je me suis dit, voilà, j'ai quand même ma trame. Le squelette s'était déjà dessiné. Et Jourdain n'en faisait pas partie. Alors, il n'est pas commissaire, il est commandant. Voilà, je ne voyais pas Jourdain. Je voulais mettre en fait en valeur aussi le travail que font les journalistes d'investigation. les journalistes de faits divers qui font bien souvent un travail de fourmi en parallèle d'une enquête de police. Ils ont aussi leurs sources et c'est aussi une manière de leur rendre hommage parce que je trouve que bien souvent, il y a des fenêtres que eux peuvent ouvrir. Ils ont plus de latitude qu'un officier de police judiciaire. Ils sont plus libres dans la façon de penser ou dans la façon d'appréhender des indices ou des personnes. Et je trouvais que c'était intéressant de les mettre, de mettre Axel justement de par son métier de journaliste spécialisé en faits divers, de les mettre à l'honneur.
La montagne, la neige et le froid sont autant d'éléments qui ont leur importance dans In Extremis. Ils font partie des éléments qui en font un thriller.
La montagne est un véritable personnage dans mon roman. La roche acérée, le froid, les bourrasques de neige, le climat en lui-même et l'environnement servent vraiment mon discours, servent vraiment la narration qui est assez horrible et assez vicieuse. Et effectivement, la montagne, je trouvais que ça servait effectivement bien la violence climatique servait très bien la violence de ce personnage multirécidiviste et puis ce psychopathe, en fait, serial killer, quoi. Voilà, j'ai vraiment voulu que la montagne, moi, j'ai ressenti comme telle quand je suis allée moi-même à Valfréjus. Et j'ai trouvé que, voilà, Punta Baña, c'est vraiment un col très, très, c'est très, très vif. C'est vraiment, on dirait des lames, quoi. Donc, je trouvais que c'était intéressant de faire le parallèle entre la violence de mon tueur et la violence du paysage.
Dans le début de votre roman, vous citez un dialogue du film Alien 2, je cite « Ma maman me disait que ça existait pas les monstres, que c'était juste pour rire, mais il y en a. Avec vous, il y en a et ils sont vraiment monstrueux. Votre imagination vous fait peur parfois ?»
Jamais. Jamais, parce que ça reste, mon imaginaire reste, comment dire, juste à mettre sur des mots. Mais en fait, bon, voilà, moi j'ai remarqué, c'est vrai qu'In Extremis a un très bon ressenti auprès de mes lecteurs. C'était pas évident de faire un livre sur un serial killer. Il y en a eu 10 000 de livres faits sur ce même scénario, enfin, sur ce même type de psychologie. Mais voilà, le fait de faire rentrer mon lecteur dans la tête de mon tueur, lui faire comprendre tous les ressorts psychologiques, comment il en est arrivé là, et finalement, oui, effectivement, les monstres, ça existe, mais les monstres sont humains, hein, on se détache un peu d'Alien, les monstres sont humains, il y a toujours une explication à la monstruosité, au passage à l'acte, et moi, je trouve que ça, c'est assez fascinant de passer de l'humain à l'humain déviant, entre guillemets monstre, parce que je pense que monstre, c'est très violent, il reste humain, mais il y a toujours une explication psychologique et j'ai bien aimé travailler la psychologie de ce personnage, justement.
Dans In Extremis, la notion de bien et du mal n'est pas toujours clairement définie. Vos personnages souffrent le chaud et le froid, et pas uniquement parce qu'il neige. Ils ont tous une part d'ombre, ils ont tous quelque chose à cacher.
Bah, comme nous tous. On a tous un jardin secret, tout le monde a une part d'ombre. Je pense pas forcer le trait, je ne connais personne qui soit blanc comme neige, qui soit absolument transparent. On n'est pas des robots, on est des êtres humains, donc on a nos failles, on a nos faiblesses, on a des secrets. Et je pense que ça doit transparaître aussi dans un roman, que ce soit un polar ou même un roman blanc. Ce sont les failles de notre psyché qui font aussi l'intérêt d'être un humain par rapport à un robot. Donc c'est ça qui est intéressant, en fait.
Dans In Extremis, vous faites référence à Alien 2, on le disait. Le cinéma vous inspire, vous le disiez aussi. Il est forcément lié au style que vous proposez, à savoir les polars et les thrillers. Le fantastique aussi vous nourrit.
Science-fiction, je suis fan, mais plutôt au niveau cinématographique. En revanche, effectivement, je regarde beaucoup de films ou d'horreur ou des thrillers. Ça, c'est vrai que j'aime bien, justement, pour la tension. J'aime bien voir comment tout ça s'organise. Et puis, je peux m'inspirer parfois de scènes. Mais voilà, je suis fan absolu de Guy Ritchie, de Tarantino, de Lars von Trier. On n'est pas du tout dans du thriller pour Lars von Trier, parce que j'aime notamment poser de la musique écouter la musique plutôt, qui va me transporter dans l'écriture. Chez Lars von Trier, j'aime beaucoup, j'ai vu tous ses films. Donc je suis très éclectique sur mes choix cinématographiques, je ne reste pas planquée sur ou rivée sur un style en particulier. Mais c'est vrai que oui, j'aime bien effectivement les films, j'aime bien les thrillers, j'aime bien les séries policières. Et je m'inspire, enfin, c'est pas que je m'inspire, j'aime bien suivre l'évolution des enquêtes criminelles, des faits divers, notamment tout ce qui est procédure judiciaire.
Antoine Renan nous disait que ses romans, dont L'Empathie, étaient peut-être trop durs pour intéresser le cinéma français. Vos histoires aussi sombres ont-ils tapé dans l'œil du 7e art?
Alors, Jeu de peau, oui, parce qu'il y a eu deux options pour une grosse société de production qui voulait en faire une série. Bestial, la thématique est un peu compliquée à mettre en place parce qu'en plus de ça, on a en scène plusieurs scènes se passent dans différents pays. Je pense que La Nuit des Fous est plus un huis clos psychologique, c'est pernicieux, c'est vicieux, ça se met en place comme une toile d'araignée, il n'y a pas énormément de scènes, de plans différents qui servent les scènes. Donc je pense que La Nuit des Fous pourrait très bien être adaptée. Et In Extremis, j'allais dire, c'est encore mieux parce qu'on est vraiment dans un huis clos à ciel ouvert, en pleine montagne. Voilà, je pense que ça pourrait effectivement intéresser des producteurs.
Vous verriez quel réalisateur et quel compositeur pour mettre en image et en musique vos romans?
Alors là, c'est une sacrée question en musique. J'ai pas vraiment de nom en tête, à part Goldsmith, mais je suis même pas sûre qu'il existe encore. Musique classique, moi ça me va très bien sur des scènes dramatiques. La musique classique, je trouve que ça colle parfaitement. Après, bon, hein, David Fincher ou je ne sais, Jean Dujardin, qui pourrait aussi, comment il s'appelle? On a aussi un auteur scénariste qui est chez Récamier, qui a fait Contre-enquête justement avec Jean Dujardin. Et son nom va m'échapper. Moi, après, je laisse l'imaginaire, je la confie à un réalisateur. C'est forcément, de toute façon, très, très différent entre la façon dont on écrit le livre, la façon dont est construit le livre et le scénario et l'adaptation. Donc, tout ça passe par des niveaux très différents que je ne maîtrise pas. Donc, voilà, je ne peux pas, je pourrais pas vous dire exactement ce qui me plairait. Je peux vous citer, voilà, quelques noms, mais. Voilà, après, de toute façon, c'est très compliqué de faire une adaptation et c'est très rare. Donc, voilà, maintenant, je peux lancer une bouteille à la mer, hein. On ne sait.
Alors, on parlait musique. Elle est omniprésente dans vos romans. Lorsque vous écrivez, comment choisissez-vous celle qui vous accompagne?
Je suis dans un état d'esprit quand je vais écrire un chapitre. Je suis comme si j'allais écrire l'épisode 7, je vous dis n'importe quoi, ou l'épisode 8 de ma série. Donc je sais comment je veux mes personnages, comment tout ça va se dérouler. Et si j'ai besoin d'une ambiance d'action, je vais aller tout de suite sur ma playlist où je vais avoir besoin, par exemple, dans Bestial, il y a une scène où Asako, Massino Calabrese, tueuse à gages, descend dans l'antre en fait hein, des enfers où elle va être obligée de se battre et là effectivement j'ai besoin d'un tempo qui soit des basses qui pulsent énormément et là je vais naturellement sur du rap. J'ai des musiques qui sont très éclectiques qui vont du rap en passant par Handel en passant par Mozart et puis dans In Extremis j'ai joué avec le clin d'œil parce que mon tueur est fan de François Valéry et il y a plein de scènes où justement où je mets des morceaux de François Valéry. J'aime bien le décalage musique et scène et parfois j'ai besoin d'avoir vraiment une musique qui colle ou j'ai besoin vraiment d'avoir une musique qui colle avec l'action, avec la scène que je suis en train d'écrire.
Contrairement à de nombreux auteurs, sans musique, il vous est impossible d'écrire.
Oui, sauf quand je suis dans le train, parce que j'écris un peu n'importe où dès que j'ai le temps hein, pour avancer, pour travailler. Je peux écrire sans musique, mais c'est vrai que je trouve que le rythme de mon écriture se cale souvent avec le rythme de la musique que j'écoute. Et ça, c'est assez marrant parce que j'ai parfois l'impression de ne pas être sur mon clavier d'ordinateur, mais plutôt sur des touches de piano, c'est-à-dire que mes doigts suivent le rythme. Écrivent dans le rythme de la musique que j'écoute.
Dans vos deux derniers romans, vous proposez une playlist hein, via un QR code et qui sent bon l'éclectisme. Ça va de Jefferson Airplane à Étienne Dao en passant par Johnny Cash et, plus surprenant, vous le disiez tout à l'heure, François Valéry et puis Partenaire
Ouais.
Particulier. Vous n'avez aucune limite musicale.
Ah ben non, j'ai aucune limite musicale parce que quand on est dans la création, si on commence à se limiter, c'est mort. Donc il faut avoir aucune limite de créativité ni aucune limite de musicale. Donc je ne peux pas me contraindre à rester dans des codes qui seraient habituellement ou usuellement acceptables. Donc voilà, je fais vraiment à ma façon. Voilà.
On peut parler de grand écart.
Oui, grand écart musical, mais pareil, grand écart au niveau cinématographique. Je n'aime pas qu'on me mette dans une case ou qu'on me contraigne à rester dans une case. Donc, au moment où j'écris, on est vraiment dans une création artistique. On en revient à votre précédente question. Création artistique, des créations artistiques, on ne peut pas demander à un peintre de mettre un petit peu plus de couleur rouge en haut à gauche parce que ça va aller mieux avec le canapé que vous avez acheté dans votre salon. Donc, c'est pareil. C'est à un moment donné, il faut délivrer ce qu'on a dans les tripes. Et après, bah, c'est pour ça, quand je vous dis, quand vous envoyez votre manuscrit avec les musiques et avec vos tripes, enfin, ce que vous avez écrit, ça sort de vous. Donc, c'est tel que c'est, même si c'est parfois ajusté avec la maison d'édition, mais il faut que ce soit quelque chose d'original qui sorte de soi, quoi.
La musique que vous écoutez ressemble à celle qui a bercé votre jeunesse, mais pas seulement. Celle que vous écoutez est aussi contemporaine.
Oui. Il y a Lola Young que j'aime beaucoup, Métronomie. Oui, bien sûr, j'écoute toutes les dernières musiques. J'aime beaucoup danser aussi, et je trouve que ça participe en dehors de la création littéraire. Je trouve que c'est festif. Voilà, c'est des moments aussi joyeux et qui doivent être. J'écoute pas les mêmes musiques sur lesquelles je danse forcément que celles qui m'accompagnent dans l'écriture. Donc. Oui, je reste évidemment très attentive aux morceaux qui sont tendance, entre guillemets, quoi.
Alors depuis la sortie de Jeu de Pau, vous participez à de nombreux salons du polar. Comment se passe la rencontre avec votre public sans cesse grandissant?
C'est génial parce que en fait, de plus en plus, j'ai des gens qui ont tout lu, alors qu'ils viennent parfois devant moi en me disant, ah bah t'écris pas assez vite, hein, parce que nous on attend le prochain. Bon, enfin voilà, c'est toujours des moments qui peuvent être même empreint d'énormément d'émotions, où on rencontre des personnes qu'on n'aurait pas forcément l'opportunité de rencontrer dans la vraie vie et dans la vie au quotidien, et qui sont toujours enthousiastes. Et moi, je passe beaucoup de temps aussi. Parfois, j'ai un côté un peu psy où on me confie des choses très personnelles, et donc je suis au-delà du pitch pour vendre mon bouquin. Bien souvent, je suis dans l'écoute et les gens se confient, et je trouve ça assez. C'est des rencontres humaines très enrichissantes en tout cas.
Vous, la femme de la communication écrite, vous êtes forcément à l'aise à l'oral?
Oh, je l'ai pas toujours été, hein. Pas du tout même. Maintenant, j'ai passé l'âge de me faire des nœuds au cerveau, donc maintenant, quand je prends la parole, que ce soit avec un micro ou pas, je sais ce que je veux dire et je suis de moins en moins timide pour ça. Et je pense que c'est important pour une maison d'édition, mais aussi pour un auteur, d'être un peu 360, c'est-à-dire à un moment donné, on vend des livres, hein, on se vend soi, donc il faut aussi savoir être à l'aise auprès de son public. Et franchement, dans le polar, on a quand même un public qui est très bienveillant, des organisateurs de salons qui sont hyper sympas, des libraires aussi. Donc on n'évolue pas dans un milieu anxiogène, donc en fait, on est tel que l'on est. Moi, je prends beaucoup de plaisir quand il y a des tables rondes avec les copains, les copines. Auteur, il y a franchement une bonne ambiance entre nous. On est tous concurrents, mais finalement, dans une bonne ambiance et de manière bienveillante. Et je trouve que ça, c'est réconfortant.
Peut-on parler de famille, celle du polar?
Oui, c'est une vraie famille, ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce terme. Il y a une famille du polar. On a été tellement longtemps relégués au deuxième niveau. Comme à une époque, la photographie, c'était pas de l'art par rapport aux œuvres artistiques picturales. Maintenant, la photographie, il y a des photographies qui se vendent bien plus cher que des tableaux. En tout cas, je pense que le milieu du polar français a gagné énormément de galons ces dernières années. Il y a eu toute la période des Nordiques, etc. Même si les Anglo-Saxons sont toujours en numéro un, on est passé devant les Nordiques depuis 2 ans maintenant, parce que les auteurs français, femmes et hommes, on a des textes qui sont extrêmement léchés au niveau littérature. On n'a pas à rougir de l'écriture. On peut écrire du polar et pas du roman de gare. On peut écrire du polar qui soit bien écrit, avec des belles formulations. Et moi, en tout cas, je recherche toujours la belle phrase, la belle syntaxe, le bel assemblage de mots, parce que voilà, je considère que écrire du polar, c'est pas un sous-genre. Donc là-dessus, je pense que effectivement, on serre les coudes entre nous, on est effectivement une famille, famille du polar et fière de l'être.
Justement, vous faites partie des Louves du Polar, ce collectif d'auteureux de polar qui se fédèrent pour
Ouais.
mettre leur travail en valeur et favoriser l'identification du polar féminin francophone, trop souvent en manque de visibilité malgré la qualité de la production. Quel regard portez-vous sur le polar féminin qui n'a pas encore la place qu'il mérite en France?
Alors, je pense que là, ça va faire 3 ans que le collectif a été monté. On a fait énormément de choses. Je pense que les choses sont en train de changer. C'est plutôt bien. On était une exception, hein. La France était une exception jusqu'à ne serait-ce que l'année dernière ou il y a 2 ans. En fait, il faut savoir que sur les 100 auteurs de polar dans le monde, les 90 premiers sont des anglo-saxons. Sur les 90% d'anglo-saxons, il faut savoir qu'il y a 80% de femmes. La France est très loin derrière puisque les 10 premiers vendeurs, les 10 plus gros vendeurs de polar sont masculins, enfin les 9 premiers, et sur les 10 premiers, pardon, il y a Fred Vargas, dont la majorité des gens ne savent pas que c'est une femme. Donc en fait, on est en train de faire bouger un peu les choses, mais il est vrai que parfois en salon, on a encore des hommes qui sont un peu bloqués à acheter un polar écrit par une femme, considérant que on n'est pas au niveau, et je ne sais pour quelle raison. Mais voilà, en tout cas, on travaille et depuis qu'on a monté ce collectif, eh bien, nous avons de plus en plus d'hommes qui viennent nous acheter nos livres en nous disant, vous êtes bien plus vicieuse que les mecs. Donc, bon, quelque part, c'était une belle, un bon moyen de mettre un peu le projecteur sur nous, où on était effectivement souvent moins sur table, beaucoup d'anglo-saxonnes qui étaient sur table ou des nordiques, voilà, femmes. Et nous, un peu relégués sur les rayonnages, et c'est en train de bouger. Je pense qu'on a encore un petit peu de chemin à faire, mais franchement, on a beaucoup de libraires qui nous soutiennent, que c'est merveilleux, sur les réseaux sociaux également, et des médias qui s'intéressent à nous. Donc, on est en train de créer un 360 de personnes qui nous soutiennent et qui ont pris conscience, effectivement, de ce déficit qui nous traînait un peu à la patte depuis quelques années.
Depuis que vous écrivez pour vous, avez-vous encore le temps de lire les autres?
Alors oui, alors j'ai 3 livres sur ma table de chevet. J'ai Le Serpent majuscule de Pierre Lemaitre. Je viens de lire Nathalie Le Cygne, Je ne suis pas d'ici, que j'ai absolument adoré. Alors très, 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 très noir. Je suis avec Jean-Claude Mozzovici, Voyage à Pichepoy et puis Histoire de la nuit. Donc oui, j'essaye de... Comme je suis en phase de recherche, de documentation, etc., et plus dans l'écriture, justement, je me permets de... J'ai plus le temps de lire. J'aime pas trop lire du polar, en tout cas, en phase d'écriture.
Alors après nous avoir fait voyager, que ce soit à Paris, à Tavaux ou à Chambéry, où nous emmènerez-vous avec votre prochain roman? Et surtout, quelle noirceur humaine allez-vous explorer?
Alors, le prochain roman qui est en relecture s'appellera peut-être... Le titre doit peut-être bouger, 14.2. Et en fait, le pitch, c'est quand vous appelez le 17, donc police secours, bonjour, hein, à partir du moment où vous êtes dans une situation d'urgence, la moyenne d'intervention des forces de police sur le territoire français est de 14 minutes 2 secondes. L'histoire se passe dans l'Aveyron, on est au petit déjeuner, c'est la rentrée scolaire, et une famille va se faire attaquer à la chevrotine. C'est une famille tout à fait lambda, qui est tout à fait normale. Et pendant ces 14 minutes 2 secondes, elle va devoir trouver tous les subterfuges. Les deux parents vont devoir trouver tous les subterfuges pour sauver leurs 3 enfants et éviter de se faire tuer. Voilà. Et en fait, tout est une histoire de manipulation. Encore une fois, on est dans l'Aveyron. Et tout est une histoire de manipulation parce que voilà, on ne sait pas vraiment qui vraiment a le doigt sur la gâchette. Et c'est un twist à double détente à la fin. Voilà. Personne ne peut s'y attendre.
Le commandant Jourdain ne sera pas de la partie alors.
Non, le commandant Jourdain ne sera pas de la partie. Je mets en scène un capitaine qui s'appelle Charlie, qui est un flic que j'aime beaucoup. Et je pense que justement, pour le prochain, je vais confronter ce capitaine Charlie qui est extrêmement croyant, qui a fait le séminaire, etc., qui est un catholique extrêmement fervent, va venir rejoindre l'équipe de Jourdain et je pense que les dialogues vont être assez savoureux parce que entre le langage très très léché de Charlie et puis le langage un peu ordurier parfois de mon commandant Jourdain, ça risque de faire des étincelles et je pense que ça peut être très intéressant.
Bien, tout à l'heure nous évoquions les séances de dédicace, il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure, sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates des prochaines séances dédicaces. Anouk, quel est votre dernier coup de cœur littéraire ?
Eh bien, je ne suis pas d'ici, de Nathalie Le Signe.
Côté proposition de la quinzaine, notons le dernier roman de Romain Slocombe, Les Revenants à l'inspecteur Sadorski, aux éditions Robert Laffont. Le livre de Lev S. Vygotsky, Pensée et langage, aux éditions La Dispute. Le roman de Richard Gougis, Le Passeur des Enfers, aux éditions Prisma. Le thriller de Marco De Franchi, La Condamnation des Vivants, aux éditions Albin Michel. Le roman de Lorraine Fouché, Aller simple pour la joie, aux éditions Héloïse Dormesson. Le thriller de Geneva Rose, Cadavre en famille, aux éditions XO, le roman de Florence Herleman, Quand viendront chanter les loups, aux éditions Charleston, le polar de Michael Connelly, Sous les eaux d'Avalon, aux éditions Calman Levy, le roman de Charles Wright, Le jardin anglais, aux éditions Albin Michel, le livre de Monique Pinson-Charlot, Les riches contre la planète, aux éditions Textuel, le roman d'Élodie Garnier, Je n'oublierai jamais ta voix, aux éditions Harper Collins Noir, le polar de Camilla Grebe, Les ténèbres de Morcrette, aux éditions Calman Levy, le roman de Michel Moati, Dans l'ombre d'Hollywood, aux éditions Hervé Chopin, le polar d'Hilaria Tutti, Le bal des vautours, aux éditions Robert Laffont, le roman de Michel Cohen, Les amis de longue date, aux éditions Le Penseur, le polar social d'Hervé Comer, Dernier cri, aux éditions Fleuve Noir, le roman de Marius Degardin, Les mandragores, aux éditions Le Penseur, le livre de Pascal Pacelli, Sanctus Stephanus de Furano, Histoire de sainteté, aux éditions Des Joyeux Pendus, et des romans de Romain Slocombe, Une seule française et Qui se souvient de Paula, le premier aux éditions du Seuil et aux éditions Point, le second aux éditions Point. Pour terminer l'émission, les dates de rencontres et de séances dédicaces. Anouk, avez-vous des rencontres et séances de dédicaces dans la région proche à annoncer ?
Non, pas jusqu'à fin décembre 2025, mais peut-être sur 2026. En tout cas, j'en informerai les lecteurs. Il y aura probablement Lyon. C'était un peu loin, mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, je n'ai pas encore mon calendrier de signature en salon sur 2026.
Vous êtes lauréate d'un prix ?
J'ai appris très récemment que voilà, j'étais lauréate Nouvelle Voix du Polar 2025, donc meilleur roman francophone de l'année. Et je suis la première femme, et en plus une louve, donc première femme à remporter ce prix. Je suis très fière et heureuse.
Le prix vous sera remis par Alexis Leipziger, non ?
Non, par Fabrice Tassel, qui est le dernier lauréat à avoir reçu le prix. Vos auditeurs pourront me retrouver sur table en librairie très prochainement, avec le bandeau, meilleur polar francophone de l'année. Pour la nuit des fous, évidemment.
Du côté des séances dédicaces dans la région proche, le samedi 27 septembre 2025, au château du Clos de Vougeot, en Côte d'Or, le salon Livre en Vigne de 9h30 à 18h, avec entre autres Romain Slocombe, Nicolas Lebel, Jacques Sauvage, c'est Jérôme Attal, Laurent Gounel, Émilie Guillaumin et Victor Laszlo. Le dimanche 28 septembre 2025, toujours au château du Clos de Vougeot, toujours en Côte d'Or, toujours le salon Livre en Vigne de 9h30 à 18h30. Et le samedi 4 octobre 2025, au Centre culturel de la vie associative. Et le samedi 4 octobre 2025, au Centre culturel de la vie associative à Villeurbanne, le salon du livre maçonnique de 10h à 22h30 avec Christophe Royer. Roman de Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Anouk Schutterberg, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de Gare.
Merci beaucoup Michel.
Rappelons que votre quatrième roman In Extremis est paru le 13 mars 2025 aux éditions Récamier. On peut se procurer où, sans oublier vos autres romans ?
Je suis en librairie, dans des librairies indépendantes, mais vous pouvez me trouver à la FNAC et puis dans tout le réseau
Cultura.
Cultura également.
Qui soutient les Louves du Polar.
Exactement.
On peut suivre donc votre actualité sur internet via les inévitables réseaux sociaux ?
Exactement, Instagram, Facebook et comme je le dis à chaque salon, voilà, je réponds à tous mes lecteurs quand on me fait un petit mot pour me faire un coucou, me dire le ressenti de la lecture, je réponds à tout le monde.
Le prochain invité de Roman Girl, le jeudi 9 octobre 2025, sera l'auteur parisien Nicolas Lebel, que vous connaissez bien.
Oui, je connais très bien Nicolas, c'est un très bon auteur.
Il se présentera dans son dernier roman en date, La Ruche, paru le 5 mars 2025 aux éditions du Masque. Anouk, bonne chance pour la suite de vos aventures d'auteur.
Oui, merci.
Voilà. Bonne écriture, bonne séance dédicace et à bientôt sur Radio B.
Merci beaucoup, Michel, de votre invitation. Bonne journée à tous les auditeurs. Merci à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la Bible.